Partez à la découverte des territoires et de ceux qui les dynamisent avec Parlons Territoire, une émission d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes ici à Bordeaux. C'est notre quatrième et dernière étape. Après Lyon, Rennes, Paris et maintenant ici à Bordeaux, nous concluons notre Tour de France où nous parlons territoire. Le pari que nous avons pris, c'est d'aller dans les territoires, mesurer finalement le moral de la ville et voir comment les villes se transforment. C'est une collection que nous avons créée, coproduit avec nos amis d'Arkéa Banque, et je suis accompagné, comme d'habitude, de mon complice, co-animateur et éditorialiste. Il est directeur immobilier chez Arkéa Banque. Bonjour Aurélien Deleu.
Bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous.
Nous allons recevoir trois invités, les amis, qui font et qui fabriquent et qui concourent à la fabrique des territoires. J'allais dire qui plantent de la ville, qui poussent, puisqu'on le sait aujourd'hui maintenant. La ville est un métabolisme lent, avec toujours ce pari, c'est d'aller au contact, hein, Aurélien, n'est-ce pas, des territoires, c'est très important. Quelques mots justement sur ce Tour de France que nous avons conçu, l'idée d'aller au contact, vous qui dirigez le département immobilier d'Arkéa.
Le sujet du territoire est un enjeu majeur pour le groupe Arkéa, et cette émission, on l'a construit justement pour prendre le pouls de ce territoire sur la thématique de l'immobilier, de rencontrer des dirigeants, des élus qui font le territoire, qui font bouger la ville, de parler d'innovation, et puis évidemment pour trouver des solutions. On y reviendra tout à l'heure dans une période qui est quand même pas simple pour le logement et puis pour l'immobilier au sens assez large. La deuxième thématique, c'est la thématique de l'immobilier. Le Crédit Mutuel Arkéa est très impliqué sur l'immobilier. Nous avons créé une filière immobilière avec des filiales spécialisées sur l'investissement, sur la commercialisation et évidemment en tant que banquier pour accompagner ces acteurs sur l'évolution, on va dire, d'une opération immobilière. Parce qu'on est présent du début jusque la fin en accompagnant tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier. Les collectivités locales, que l'on peut financer hein, sur des sujets de foncier public, les aménageurs publics, les aménageurs privés, évidemment les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, jusqu'aux investisseurs institutionnels. Donc c'est important pour nous d'être présents en tant que banquiers hein, à ces différents maillons de la chaîne, de financer les opérations par du crédit, par des garanties, tout mécanisme qui permet de fluidifier le développement d'une opération. Mais on fait pas que ça. On essaie aussi d'être animateur de cet écosystème. C'est quelque chose qui nous guide, qui nous différencie peut-être un peu de certains banquiers, et cela depuis un peu plus de 12 ans, où on essaie de faire rencontrer les différents acteurs de la chaîne, d'animer cet écosystème, alors à notre niveau, hein, mais je vais vous donner un exemple. Hein, on a fait cette année, le 10 septembre, le 12e speed dating de l'immobilier d'Arkéa Banque. On avait 300 dirigeants élus, tous les acteurs dont on a parlé tout à l'heure, on essaie ben, justement de mettre une thématique au centre. On y reparlera de cette thématique aujourd'hui, puisque la thématique, c'était l'emploi et le logement. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une vraie problématique. Hein. Des entreprises ont du mal à trouver des salariés parce qu'on a des problématiques de logement. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire dans cette émission, c'est de faire en fait une sorte de mini speed dating, en tout cas un speed dating des régions en territoire. Et donc c'est vrai qu'on est sur des grandes villes, hein, Lyon, Rennes, Bordeaux aujourd'hui. C'était important pour nous de poser nos valises ici. Pour conclure, peut-être vous dire quelques mots de cette ville de Bordeaux, enfin cette ville, cette métropole de Bordeaux, hein, qui est une métropole extrêmement dynamique, une ville qui est très riche de son passé historique, qui a été créée par les Celtes, qui s'est toujours développée autour notamment du commerce, grâce à son port, hein, au début, au niveau de l'Empire romain, puis tout au long des siècles, via le commerce triangulaire, le commerce du vin. Au 19e siècle, le chemin de fer arrive ici à Bordeaux et continue le développement de cette ville jusqu'à ces dernières années avec une liaison LGV qui l'amène à 2 heures de Paris, d'où son développement très fort. 750 000 habitants, une attractivité importante, de grandes entreprises, mais évidemment, qui dit attractivité forte, et je pense qu'on en reparlera puisque c'est plus de 15 000 personnes, je pense, hein, qui arrivent chaque année sur le territoire, eh bien, il faut des infrastructures. Il faut du logement. Et c'est vrai que dans cette période actuelle où le marché immobilier souffre, il faut essayer de trouver des solutions. Donc c'est ce qu'on va essayer de trouver aujourd'hui, hein, et en tout cas en parler tout autour de cette table. C'est un petit peu la promesse et puis l'enjeu de cette émission.
Absolument, et merci effectivement de cette précision. C'est également l'occasion aussi de développer cette agora, ce débat dans lequel on peut vraiment débattre. Et je pense que la vitalité d'ailleurs démocratique, C'est aussi le débat. Il n'a échappé à personne que nous sommes déjà sur un cinquième gouvernement, une sixième ministre du logement de plein exercice qui a été nommée. Il y a beaucoup d'attentes qui ont été développées. On en reparlera certainement. Et vous avez déjà vu l'examen du plan du projet de loi de finances qui donne quelques orientations, même si parfois on aurait souhaité peut-être avoir plus. C'est un vrai sujet puisque les collectivités locales aujourd'hui doivent se développer au niveau des infrastructures, encore faut-il qu'elles en aient les moyens. Vous êtes tous d'accord pour avoir des compétences à condition que les recettes y soient associées. C'est vraiment l'enjeu. Voilà, c'est parti pour le premier entretien. On se retrouve dans quelques instants.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle sur Radio Immo.
Vous êtes sur Parlons Territoire, sur Radio Immo. Merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane Pfeffer, merci d'être avec nous. Je vais repréciser bien évidemment votre pédigré. Vous êtes délégué adjoint au maire à l'urbanisme résilient. J'aime beaucoup l'idée de l'urbanisme résilient. On est vraiment au cœur du sujet. Du service public de l'habitat, de l'économie sociale et solidaire de la ville de Bordeaux. Vous êtes également conseiller métropolitain délégué à l'habitat sur la métropole de Bordeaux. Je vais lancer la première question, Stéphane, un vrai sujet. On l'a évoqué tout à l'heure en intro, bien évidemment, on a aujourd'hui un nouveau gouvernement qui est, on va dire, cherche le consensus en permanence. Et les collectivités locales, bien évidemment, ne peuvent pas être affranchies finalement des politiques publiques, puisque c'est un vrai sujet. Moi, j'ai envie de vous poser cette première question. Quelle est, pour vous, la stratégie immobilière mise en place par la ville de Bordeaux sur l'urbanisme et le logement, plutôt généralement, pour qu'on puisse entrer un peu plus vivement dans le sujet?
Très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation et bienvenue dans cette belle ville de Bordeaux et ce beau bâtiment qui a été réhabilité par la société Emera, hein, qui est spécialisée, reconnue à Bordeaux pour justement retravailler des vieux bâtiments et les ramener un peu à la vie et les ouvrir aux habitants.
Il redonne vie au bâtiment.
Donc je trouve que c'est effectivement assez symbolique, en tout cas, des discussions qu'on va pouvoir avoir. Pour répondre à votre question, peut-être deux préalables. La première, quand même, en complément de ce qui a été dit précédemment, rappeler que Bordeaux est une zone particulièrement tendue, hein, puisqu'on a une demande effectivement conséquente, une offre manifestement insuffisante, et surtout, on a une difficulté en termes de prix. Les loyers sont élevés. On est une des trois métropoles les plus chères de France hors Paris, que ce soit sur les loyers ou le foncier, avec une hausse continue et très forte depuis maintenant près de 10 ans, ce qui rend effectivement difficile la capacité financière à trouver un logement et qui exclut de plus en plus de populations. Pendant le Covid, on parlait des premiers de corvée, et c'est ces premiers de corvée-là qu'on n'arrive plus à loger, ou en tout cas avec grande difficulté. Donc on a ce premier enjeu. On a un deuxième enjeu qui est qu'on a une population qui augmente chaque année. En Gironde, c'est un peu plus de 15 000 nouveaux habitants tous les ans, la moitié sur la métropole et à peu près un tiers sur Bordeaux. Donc on va avoir chaque année 3 000 nouveaux habitants, auxquels il faut ajouter les gens qui naissent sur notre territoire, puisque on est la Gironde, un des derniers départements de France à avoir un solde naturel positif, c'est-à-dire que on fait plus d'enfants qu'il n'y a de décès. Donc si on ajoute ça à des personnes qui viennent de l'extérieur, ça crée un besoin supplémentaire en logement assez assez conséquent. Et ce besoin supplémentaire en logement, il s'incarne aussi par, et je pense que l'intervenant suivant en dira également un mot, mais la nécessité d'avoir une offre qui soit accessible, abordable, et de développer une production de logements sociaux pour loger toute la population. À partir de là, notre stratégie, notre vision de la ville, elle s'est incarnée par deux idées majeures. D'abord, travailler la question de l'habitat privé, parce que si aujourd'hui on a un besoin en logement social, c'est parce que le marché privé n'est plus en capacité d'arriver à loger la population par manque d'offres, mais aussi pour la question des prix. Donc typiquement, ça a été la mise en place de l'encadrement des loyers pour essayer de contenir la hausse dans un premier temps et à terme peut-être d'avoir des baisses. Et puis le deuxième axe, c'est cette stratégie un peu de développement du logement social. Une des questions qu'on s'est posées en arrivant, c'est faut-il que continue à produire du logement à Bordeaux? Au regard de ce que je viens de vous évoquer, la besoin de logements sociaux et surtout la hausse de la population, on a rapidement répondu oui, mais en disant on ne peut plus construire de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne en compte certes l'impact social du logement, mais aussi l'impact environnemental. Donc on a essayé et ça a été une inflexion quand même assez importante, de développer via le PLU et via un label spécifique à la ville de Bordeaux l'incitation des opérateurs immobiliers à construire de manière plus durable, mais je pense qu'on pourrait peut-être y revenir tout à l'heure. Pour produire du logement, de manière plus durable. On a fait le choix d'abord de continuer les opérations d'aménagement qui étaient en cours, hein, puisqu'on en a trois grandes opérations sur Atlantique, Bastignelles et Brazza, avec quelques réorientations pour justement ces adaptations environnementales. Et puis, on est allé regarder aussi sur le reste de la ville, où est-ce qu'il nous restait des endroits pour faire peut-être des nouveaux quartiers. Alors, on n'a plus beaucoup de grands fonciers, mais on en a repéré au moins deux. Donc, tout au nord de Bordeaux, ce qu'on appelle le quartier de la Jalère, où on est en train de finaliser les choses, mais on aura autour de 2500 logements à terme sur ce quartier-là. Un quartier qui est aujourd'hui un espace très naturel, donc on va les construire essentiellement en réhabilitation. C'est 100 000 m² de prévu, 50 000 m² en réhabilitation, 50 000 m² en neuf, mais sur des zones déjà artificialisées. Et puis un deuxième quartier qu'on travaille avec, en l'occurrence, Nood, l'écosystème Auchan, Décathlon, etc., Leroy Merlin. C'est le centre commercial du lac, où aujourd'hui on a une zone d'une cinquantaine d'hectares, artificialisée à 98% que des zones commerciales, et elle va muter cette zone-là pour aller vers un quartier de logement. Ça, c'était les grands fonciers déjà artificialisés qui nous restaient. Et puis, on est dans cette période de transition, puisque dans quelques années, quand ces deux dernières opérations seront terminées, ben on n'aura plus la possibilité de faire des opérations massives. Et donc, on engage aussi une transition vers la dentelle, c'est-à-dire l'urbanisme de transformation. Comment est-ce qu'on va dans les quartiers déjà constitués dans les secteurs diffus pour aller densifier un petit peu, mais on y reviendra tout à l'heure, je crois.
Est-ce que ça suffit justement ces grandes opérations, parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu contraint avec tout ce qui est sobriété foncière et ZAN, au regard justement de l'attractivité, on va dire, du territoire. Est-ce que ces opérations suffisent, ou est-ce qu'il y a besoin de se projeter peut-être différemment?
Elles sont clairement insuffisantes, parce que la demande est conséquente, et c'est pour ça qu'on s'engage vraiment dans ces phases aussi de densification de la ville, de reconstruire la ville sur la ville. Après, si on dézoome juste un instant de la ville de Bordeaux et qu'on regarde l'échelle de la métropole, l'impact du zéro artificialisation net n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que nous, à Bordeaux, on a encore vu ça il y a pas longtemps. Bon, on a très peu de secteurs qui aujourd'hui ne sont pas artificialisés. Donc, on est plutôt dans la logique inverse, où est-ce qu'on peut ramener des espaces naturels là où il en manque. En revanche, à l'échelle de la métropole, on a beaucoup d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et la métropole, elle consomme aujourd'hui plus que ce que lui autorisera demain la loi ZAN. Donc, il faut qu'on arrive effectivement à mieux optimiser, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des endroits où il faudra refuser la construction sur certaines zones. En revanche, aller densifier à d'autres endroits. Donc, c'est comme ça un petit peu qu'on travaille le ZAN. À l'échelle de Bordeaux, c'est pas une difficulté. À l'échelle de la métropole, il faut trouver les solutions pour poursuivre à la fois la production de logements et l'accueil d'entreprises.
J'ai une petite question, parce qu'on avait eu cette question-là sur Lyon. C'est le fait parfois d'être contraint au sein de l'agglomération ou de la métropole fait que vous avez des villes périphériques qui de cela construisent et puis artificialisent de façon assez massive, qui va un peu à l'encontre, on va dire, du sujet du ZAN. Est-ce que c'est aussi le cas à Bordeaux, ou peut-être moins?
Alors si, c'est un véritable enjeu qui sera en partie encadré par le ZAN, si tant est qu'on ne sait pas trop ce qui va en devenir d'ailleurs, mais en tout cas, nous, on reste dans cette logique du ZAN en attendant d'autres consignes. Mais oui, c'est très impactant pour les communes autour de la métropole. Après, la vraie question ici, elle est même girondine, en fait. C'est comment est-ce que on arrive à avoir une politique d'aménagement du territoire plus globale à l'échelle du département. Demain, on va avoir un RER métropolitain, pardon. Comment est-ce qu'on aménage les zones autour des gares pour produire du logement, des bureaux, etc., de manière aussi à desserrer la pression sur la métropole et la ville-centre et aller partager avec les territoires. Mais ça s'organise. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de pilotes dans l'avion sur la question de l'aménagement du territoire. La métropole peut pas le faire, puisqu'on est en dehors des frontières métropolitaines. Ce n'est pas la compétence des départements. Donc on attend que l'État se mette un peu autour de la table sur ces sujets-là.
Vous avez bien raison. Tout est politique. Et la politique de l'aménagement du territoire, c'est une vraie politique. On a connu d'ailleurs le dernier grand commissaire au plan, c'était Lionel Stoléru, qui est le père de Emmanuel Wargon, par exemple. Ministre également du logement. On est sur un cinquième gouvernement, on est sur un sixième ministère du logement de plein exercice, auquel on a adjoint la rénovation urbaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on va parler justement des sujets de foncier. Dans les six points soulevés dans le discours de politique générale par Michel Barnier, il y a un point sur l'assouplissement de la ZAN. C'est là qu'on entend les promoteurs qui disent « enfin, voilà, dans le public ». La ZAN, qui est le zéro artificialisation net, je vais y arriver, donc c'est déjà imprononçable en soi, pour moi le ZAN c'était les bonbons aux réglisses, c'est de se dire finalement, on a plutôt capté le zéro que l'artificialisation. En fait, dans l'idée, Lausanne a été pris ou conçu finalement comme une forme de contrainte, parfois, et un frein à l'acte de construire. Alors, on est tous d'accord que l'impact sur le climat, sur l'environnement, est, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, impact social et environnemental. Sauf que vous êtes dans une démographie positive. Bravo. Toutes les régions ne peuvent pas se targuer d'avoir une croissance démographique aussi bonne. Ce foncier, qui est une composante en fait importante en fait du prix de l'immobilier, ça a été le mercato. Il n'a fait qu'augmenter. Alors entre le foncier public, le foncier privé, on peut comprendre d'ailleurs, puisque souvent on fustige les promoteurs. Il y a quand même quelques promoteurs dans la salle en disant finalement c'était beau genre 40, au revoir 60. Et il y avait une surenchère automatique autour du foncier. Sauf qu'on a quand même oublié une chose, c'est que le foncier, c'est quand même la matière première du promoteur. Donc, je peux comprendre l'attitude de certains promoteurs dans la fébrilité de vouloir acquérir du foncier. Je vais vous poser une question très claire. Je sais qu'on vous l'a posée souvent, Stéphane. Est-ce qu'il y a réellement, encore aujourd'hui, du point de vue de la métropole, des leviers, vraiment des leviers, pour maîtriser, enfin, peut-être, le prix du foncier, ou est-ce que c'est carrément un vœu pieux? Est-ce qu'on sait que finalement, par le mécanisme économique, on sait qu'on n'arrivera jamais réellement à réguler ou à maîtriser le foncier? On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans un autre partie effectivement de l'émission sur l'encadrement des loyers, mais ça procède exactement de la même idée. Qu'est-ce que vous en pensez?
En tout cas, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas.
C'est clair. Et
aujourd'hui, c'est vrai que les collectivités, on est quand même dépourvues d'outils efficaces pour arriver à encadrer, réguler les prix du foncier. Vous évoquiez les promoteurs au regard du foncier. C'est vrai que les promoteurs, il y a cette concurrence entre promoteurs sur le prix du foncier, mais à la fin, c'est les premiers à en pâtir. C'est-à-dire que les opérations, elles sont difficiles à sortir,
oui,
parce que les fonciers ont été vendus cher.
Donc, souvent, on tape très gratuitement et un peu facilement sur les promoteurs comme étant ceux qui ont été désignés par tous les maux de la terre. Il faut quand même savoir que ces gouvernements ont quand même mis à genoux toute une économie auprès des promoteurs qui ont été les premiers désignés sur la crise du logement. Et in fine, vous le savez Stéphane, c'est les Français qui payent le prix puisqu'ils ne sont pas logés. Et les promoteurs défendent d'abord le logement des Français. C'est un vrai sujet.
Mais tout à fait, c'est pour ça que je disais, si les promoteurs se font entre guillemets la concurrence sur le foncier, c'est les premiers à en payer, parce que derrière, les logements sont plus difficiles à sortir, donc
bien sûr,
on sort moins de logements, etc. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel gouvernement mais avait mis en place le CNR Logement, Conseil National de Refondation Logement. C'était celui d'Elisabeth Borne.
Le fameux CNR qui a accouché d'une grenouille.
Voilà. Mais une des propositions qui était ressortie, et je rappelle quand même que, sauf erreur de ma part, le groupe de travail logement était co-présidé par Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre.
Et Véronique Bédague.
Et Valérie?
Non, Véronique Bédague, présidente du groupe Nexity.
Et que une des propositions qui avait émergé et que nous on avait trouvé particulièrement été intéressante, c'était justement d'arriver à trouver un mécanisme qui permettait de réguler, de plafonner, en tout cas, le prix du foncier. Il y avait plusieurs moyens d'y arriver, mais bon, malheureusement, c'est une... Donc on voit que là, il y avait un accord promoteur, opérateurs sociaux, collectivités. Malheureusement, ça n'a jamais été suivi d'effet, alors que je pense que c'est une mesure qui ne coûterait pas forcément de l'argent à l'État. Donc on peut être sur une mesure en ce moment intelligente qui fonctionnerait, mais on regrette effectivement que ça n'a pas été mis en œuvre. Après, du coup, il faut qu'on trouve d'autres moyens d'essayer de réguler ces prix du foncier. Alors je pense que la période de crise qu'on traverse aujourd'hui implique du côté des promoteurs de repenser son mode de faire et de peut-être arrêter un petit peu d'être dans le jeu de la concurrence, parce que de toute manière sinon les opérations elles sortent pas, et porter le foncier ça coûte trop cher. Donc il y a une forme, je pense, d'autorégulation qui pourrait arriver, en tout cas je le souhaite, dans les prochains mois et prochaines années. Et puis après, il y a nous, du point de vue de l'intervention publique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a mis en place depuis début 2022 une nouvelle stratégie foncière qui était absente à la ville de Bordeaux, dans des logiques de préemption. C'est-à-dire que maintenant, on veille vraiment sur les DIA à l'échelle de la ville de Bordeaux, de manière à repérer certains fonciers, soit qui pourraient être plus densifiés que le projet prévu auquel on peut aller acheter, soit des fonciers sur lesquels on a des prix de vente qui peuvent être élevés, dans lesquels on a la capacité à aller... En préemption, en contestation de prix. Après, on peut pas le faire de manière massive.
Justement, appliquer cette politique, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous préemptez, donc vous agissez avec les moyens dont vous disposez, sauf que vous n'avez pas forcément toujours les moyens de pouvoir monter sur les opérations. Bien évidemment, vous avez aussi vos propres limites lorsque vous êtes dans cette politique de préemption du foncier. On est d'accord?
On a surtout des limites financières.
Oui, c'est bien ça dont je parlais.
Et de plus en plus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, alors après, effectivement, on garde pas les fonciers pour garder les fonciers. Donc, ils sont revendus derrière pour y faire des opérations de logement, et notamment de logements sociaux. Donc, on applique une décote quand on revend, mais on retrouve quand même un petit peu à peu près nos billes. Après, on va pas aller acheter tous les fonciers qui passent non plus, mais
pour être clair, vous avez plus de maîtrise sur le foncier public, on est d'accord. Là, vous êtes capitaine à bord.
Quand on est propriétaire de notre foncier, on en fait un peu plus ce qu'on veut, évidemment. Donc, il y a cet outil, effectivement, de la veille foncière. Et à Bordeaux était une ville hors établissement public foncier pendant un certain nombre d'années, où le PF n'avait pas le droit d'intervenir sur la ville de Bordeaux. C'est plus le cas aujourd'hui, parce que maintenant, la ville et métropole, on travaille avec l'établissement public foncier. On a repéré comme ça aussi des secteurs stratégiques dans lesquels ils ont la capacité à intervenir plus vite et de manière plus conséquente. Ça peut être un outil de régulation des prix du foncier. On a quelques exemples de ce point de vue-là, mais c'est aussi un moyen d'aller acquérir des petites parcelles pour faire du remembrement et à la fin arriver à densifier. Donc on a les deux objectifs avec le PF, mais on essaie de trouver les outils qu'on a et puis on fait un peu avec les moyens du bord.
Aurélien. J'aimerais qu'on parle un peu de développement économique, et là avec votre casquette de président de InCité, et de parler un petit peu, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, du sujet notamment de la rénovation de bâtiments un peu anciens en centre-ville de Bordeaux, et puis une activité également qui est importante, c'est le maintien du commerce et de l'artisanat en centre-ville. On sait que c'est un sujet qui est important dans énormément de grandes villes ou de villes moyennes en France. Donc voilà, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette activité, et puis dans un second temps, vous avez développé en plus un outil spécifique, qui est une foncière d'activité. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi un petit peu?
Bon, j'évoquais tout à l'heure la nécessité de produire du logement sur des nouveaux quartiers. Donc là, on est dans une logique un peu d'urbanisme, d'aménagement. J'ai évoqué le fait de modifier, de renouveler les quartiers qui existent déjà. Donc on était dans des logiques d'urbanisme, de transformation. Et la mission qui a été confiée par la ville de Bordeaux et la métropole à InCité depuis maintenant 20 ans, on est dans une logique d'urbanisme de réparation. C'est-à-dire que la mission première, c'est d'aménager le centre ancien, repérer les habitats insalubres, les habitats dégradés, les acheter, les réhabiliter et les transformer souvent en logement social. Donc ça fait 20 ans, c'est plusieurs milliers de logements qui ont été réhabilités de ce point de vue-là et plusieurs centaines de logements sociaux créés en centre ancien. Donc effectivement, il y a cette activité très forte, à la fois dans une logique d'accès à l'habitat et dans une logique aussi de préservation patrimoniale, parce qu'on a cet intérêt, cet objectif aussi de sauvegarder notre patrimoine qui parfois se dégrade à vitesse grand V. Et puis, dans cette mission d'aménageur du centre ancien, InCité s'était vu confier aussi, ou en tout cas avait la possibilité d'acquérir des commerces en pied d'immeuble dès lors qu'il y avait du logement dans les étages. Donc ça a permis de développer une certaine compétence et expertise sur ces sujets-là, qui a été élargi en 2019, effectivement, par la création d'une foncière d'activité à l'initiative de la métropole et avec le soutien de partenaires comme la Caisse des dépôts et consignations, Arkéa, Crédit Mutuel et la Caisse d'épargne, pour être complet. Cette foncière, elle avait pour objectif de créer 15 000 m² de locaux d'activité entre 2020 et 2030. On devrait signer les 15 000 m² en 2025, donc avec 5 ans d'avance sur les objectifs, ce qui montre que ça répond à un vrai besoin, et on le voit au quotidien parce que on va faire les 15 000 m² en 2025, on a au moins 30 ou 40 000 m² dans les cartons derrière, donc on sait qu'on a des marges de manœuvre sur des activités commerciales. Soit en centre-ville de Bordeaux, mais plutôt à l'échelle de la métropole. Comment est-ce que dans certains quartiers ou via des opérations immobilières, on va avec la foncière acheter un local commercial pour faire la boulangerie, parce que sinon ça rentre pas dans le modèle économique du projet immobilier, mais la ville elle demande une boulangerie, on peut avoir ce type là. On a une activité très forte aussi, et qui est l'essentiel d'ailleurs de la foncière, sur l'artisanat, parce qu'aujourd'hui les artisans sont relégués même pas à l'extérieur, dans la métropole, ils sont relégués très loin dans le département. Donc comment est-ce qu'on les rapproche des lieux de chantier, notamment avec les enjeux de réhabilitation, de petits travaux, on a vraiment cet objectif-là. Donc là, c'est à peu près la moitié, en tout cas, des mètres carrés développés qui sont sur l'artisanat à l'intérieur de la ville de Bordeaux. Donc là, on essaie d'innover avec de l'artisanat dans les étages. On fait à Brazza, avec Cogedim, un immeuble de quatre étages, d'artisanat, avec des façades qui s'ouvrent par l'avant pour pouvoir faire passer les machines, etc. Donc on arrive aussi à développer une offre un peu spécifique à des tarifs hyper accessible, parce que pour le commerçant à Bordeaux, la moyenne, on va être à 250 € du mètre carré. Nous, on va être 80 à 100 € en dessous. Et pour les artisans, on est autour de 80 € du mètre carré. Donc, on a une capacité, en tout cas, leur permet d'accéder à ces locaux. Et puis, une activité aussi à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup de sollicitations sur des locaux immobiliers, sur des locaux, pardon. Et donc, on développe aussi une part de l'activité sur les développements de locaux à destination des acteurs de l'ESS. Donc, c'est un outil qui marche très bien et qui est bien réparti dans la métropole, puisqu'on a à peu près un peu plus d'un tiers des opérations à Bordeaux, le reste sur la métropole, ce qui correspond globalement au poids de la ville dans la métropole, quoi.
Pierre Urmi, que nous aviez reçu avec beaucoup de gentillesse à la mairie de Bordeaux, très intéressant ce que vous dites, puisque on voit bien que vous maîtrisez bien l'économie sociale et solidaire, c'est votre métier aussi, parce que je crois même que vous avez enseigné, il me semble, aussi de l'économie sociale et solidaire. Et connaissez bien également tous les rouages, puisque vous êtes également un ancien collaborateur parlementaire. Je voudrais juste une toute dernière question. Vous avez évoqué l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour savoir et mesurer si les mesures d'encadrement des loyers dans les grandes métropoles ont porté leurs fruits. Est-ce que vous disposez, Stéphane Pfeiffer, aujourd'hui, d'éléments statistiques qui permettent de dire que l'encadrement des loyers, qui est une bonne idée sur le papier, a eu des effets positifs sur la fluidité de logement? Alors, je vais quand même donner quelques chiffres, si vous voulez bien, juste pour compléter. Je profite également que vous soyez là. En septembre 2024, c'est 17% des personnes interrogées n'ont pas pu signer leur contrat de travail dans les grandes métropoles, faute de logement. Ils étaient 12% des étudiants en 2023, ils étaient 18% en 2024 à ne pas avoir renoncé à leurs études, faute de logement, dont on estime environ qu'un peu moins de 10% vivent, par exemple, dans un état précaire, exemple, vivre dans sa voiture, dans du caravaning et dans finalement de l'habitat qui était de l'habitat temporaire, comme par exemple le camping, les bungalows, etc., qui deviennent des habitats définitifs. Bordeaux n'y échappe pas, parce que effectivement vous avez un territoire très attractif. C'est un vrai sujet de société, c'est même un sujet de désespérance. J'ai fait un autre exemple, j'ai calculé le nombre de demandes de location sur le marché bordelais intramuros. La baisse sur les deux dernières années, c'est 50%. Pour une offre à la location, il n'est pas rare d'avoir 450 dossiers dans la même journée. Ça doit quand même vous effrayer en tant qu'élu local.
Là, c'est surtout effrayant pour les gens qui n'arrivent pas à se loger.
C'est clair. Et sur l'encadrement, donc du coup, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a pu?
Mais c'est vrai qu'on a un vrai déficit, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'offre de logement, et en particulier sur les étudiants. On est à l'échelle de la métropole, en dessous de la moyenne des métropoles de la même taille dans l'offre de logement étudiant et en particulier le logement social étudiant. Donc il y a un contrat qui a été signé entre la métropole et l'État en 2020 et les bailleurs sociaux et le CROUS pour développer une offre de logement qui nous permettra de rattraper et d'être un peu au-dessus de la moyenne. Bon. On devait atteindre ça, c'est pareil, ça devait être fait sur 10 ans de mémoire, 600 logements étudiants par an, 300 à Bordeaux. Aujourd'hui, on est au-dessus de ce chiffre-là, aussi parce que la crise immobilière fait que les projets immobiliers qui sortent aujourd'hui sont essentiellement des projets de logements étudiants, que ce soit dans le parc privé ou social. Donc on a un rattrapage en tout cas qui est en cours, mais c'est vrai qu'on était très très en retard. Sur l'encadrement des loyers, nous, il est mis en place depuis le 15 juillet 2022, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. Et l'encadrement des loyers ne s'applique qu'aux nouvelles locations d'un logement. Donc finalement, en 2 ans, il n'y a pas suffisamment de nouvelles mises en location pour pouvoir en tirer un bilan définitif. Cela d'autant plus que la crise immobilière venant par-dessus, on voit qu'aujourd'hui, il y a une petite baisse des prix du foncier et des loyers. Quelle est la part de quoi là-dedans? C'est encore trop tôt pour le dire, d'après ce que nous disent en tout cas l'agence d'urbanisme qui en charge l'observatoire.
D'indicateur ou de stats?
Non, en revanche, ce qu'on sait, c'est que d'une part, il est mieux respecté aujourd'hui qu'il y a 2 ans. C'est la Fondation Abbé Pierre qui a fait une étude là-dessus. On avait à peu près un peu plus de la moitié des annonces qui respectaient pas l'encadrement des loyers l'année dernière. On en a plus que entre 25 et 30%. Donc ça, c'est quand même un premier point positif. Et le deuxième point positif, c'est que On n'a pas encore de données extrêmement précises, chiffrées, etc. Mais la tendance est plutôt à la baisse des loyers au mètre carré sur les petites surfaces, et ce qui était l'objectif de l'encadrement des loyers, parce que on a des T1 ou des studios à 24-25 euros du mètre carré, et ce qui était quand même excessivement cher. Donc sur les petites surfaces, on commence à avoir des tendances à la baisse, mais ça méritera d'être encore confirmé dans les prochaines années.
Aurélien, un mot peut-être ? Non ?
Merci. On aura l'occasion de reparler justement du logement étudiant en dernière séquence.
Absolument. Mais un vrai sujet. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu très clairement à toutes ces questions. Ça fait plaisir d'avoir des élus qui sont opérants et efficaces sur le sujet. Merci Stéphane Pfeiffer. Je rappelle que vous êtes adjoint à l'urbanisme résilient à la mairie de Bordeaux, du service public de l'habitat et de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes également conseiller métropolitain et délégué à l'habitat de la métropole de Bordeaux depuis 2020. Justement, on va parler du logement avec ceux qui rapprochent les entreprises et le logement. C'est le cas du prochain invité. Restez avec nous. C'est le cas du prochain invité qui va suivre dans quelques instants, puisque nous allons recevoir, mon cher Aurélien, Francis Stéphane, qui est directeur général de Domo France et qui est une filiale d'Action Logement Immobilier. On va en parler dans quelques instants. Encore merci d'être venu sur le plateau. Les amis, vous ne zappez pas, on se retrouve dans quelques instants.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Bien les amis, nous sommes de retour ici à l'hôtel Fenwick, un hôtel emblématique, un lieu d'exception qui a été régénéré, comme quoi finalement, non seulement la France a du talent, mais elle sait utiliser son patrimoine, parce que pour savoir où l'on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Et donc c'est bien de penser à la tradition de l'histoire et de ces bâtiments emblématiques. Toujours accompagné d'Aurélien Deleu, ça va toujours Aurélien ?
Toujours.
Voilà, au taquet Aurélien, toujours proche de ses clients. Merci Francis Stéphane d'être sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Domo France, une filiale d'Action Logement Immobilier. Francis, Action Logement, c'est un acteur majeur du logement sur les territoires. Vous avez cet ADN qui est ancré en fait dans Action Logement Group et l'ensemble de son territoire. Vous allez vous des Charentes-Maritimes aux Pyrénées-Atlantiques, vous avez un énorme terrain de jeu. Donnez-nous quelques chiffres pour présenter un peu plus Domo France et surtout de rappeler le rôle central d'Action Logement pour accompagner les entreprises et le logement des salariés.
Nous avons la chance d'être dans une région très attractive. Très attractive économiquement, très attractive en termes de développement et de croissance. Ça veut dire que le besoin en logement est une réponse nécessaire et obligatoire. Et Action Logement, dont le leitmotiv c'est l'emploi et le logement, demande à ses filiales, on en a 5 dans la région, d'être les bras armés pour apporter des réponses, mais au même titre que d'autres bailleurs. Soyons très clairs là-dessus. Notre terrain de jeu, c'est de Hendaye à l'île de Ré, pour faire simple. Et puis, nous intervenons également dans les départements ruraux de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, et dans un dispositif, on y reviendra peut-être, issu de la loi Elan, dans une SAC en Corrèze. Donc, Domo France, c'est 42 000 logements à 700 salariés aujourd'hui, et nous produisons 1 700 logements locatifs par an, que ce soit du logement locatif social ou du logement intermédiaire, mais également et 300 accessions à peu près et plus 300 à 400 ventes HLM. Voilà globalement le périmètre qui nous anime avec 700 salariés mobilisés et des implantations locales et territoriales. Et pour Action Logement aujourd'hui, la clé, et c'est ça la grande difficulté, c'est de pas bloquer les entreprises qui en recherche d'emploi aujourd'hui nous appellent régulièrement en disant comment fait-on ? On y reviendra, mais vous l'avez évoqué avec l'intervenant précédent.
Écoutez ce qu'on disait tout à l'heure sur le logement étudiant comme sur le logement des salariés. Vous, ces chiffres, vous les connaissez. C'est un vrai sujet. Et je rappelle d'ailleurs, en complément de ce que je disais tout à l'heure, que vous êtes ce qu'on appelle une ESH, une entreprise sociale pour l'habitat. Justement, sur cette question de rapprocher les salariés, vous n'êtes pas exempt sur ce territoire, parce que vous êtes sur un territoire très attractif, vous avez dit, de Hendaye à l'île de Ré. C'est un vrai sujet quand les entreprises vous appellent et qu'elles n'arrivent pas à loger leurs salariés.
Alors, c'est un vrai sujet et on n'a pas forcément la capacité de réponse et encore moins en temporalité. Je vais donner 2 exemples. Je suis appelé à Bordes, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais Safran est une très grosse unité dans la vallée de Naye, entre Pau et Bagnères-de-Bigorre. 2000 emplois. Avec une unité qui a une joint venture avec une unité américaine de Houston. Et on me dit, ici, on a un enjeu très important de création de valeur avec des start-up. Ça veut dire qu'en permanence, nous avons 600 jeunes qu'il faut loger. Comment fait-on ? Premier point. Deuxième point, le pays se gargarise en disant « il faut réindustrialiser ». Très bien. Le directeur de Safran à bord nous dit « j'ai un sous-traitant qui est en Bulgarie qu'on peut réimplanter à bord. 950 emplois. Avec le ZAN, je construis mon usine où ? Et deux, je loge les gens où ?» Donc voilà des bonnes questions. Les réponses, on va les rechercher ensemble. Mais voilà les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et on voit quand même une chose.
Francis, vous avez raison. Et on a un pari avec Aurélien. La parole est libre et elle circule librement. Donc vous avez raison de pousser un coup de gueule là-dessus. C'est un vrai sujet. Parce que on a un président qui a dit qu'il fallait réarmer la France et relocaliser l'industrie. Sauf que dans la pratique, on est d'accord, on est confronté à des sujets parfois surréalistes. On est d'accord là-dessus.
Mais réarmer la France, c'est une bonne chose. Vous citez un bon exemple. Le président de la République est venu à Bergerac, à la poudrerie. Et on découvre dans ce pays que pour alimenter les armes, il faut des poudres. Bon, on l'avait oublié.
Réarmer la France avec de la poudre, ça fait
voilà.
Bien,
hein. Donc, il faut relancer la poudrerie, et il est demandé aux poudriers bergeracois de multiplier par 10 leur production en 3 ans. Ça veut dire 450 emplois. Pour embaucher, il faut loger. Et en 3 ans, un projet immobilier aujourd'hui, même si Domo France, que je dirige, est très performante, vous l'imaginez bien. Mais même en étant très performant, il faut entre 3 et 5 ans pour apporter les réponses si les collectivités mettent les fonciers à disposition. Donc on voit bien que on ne sait plus gérer les paradoxes, on n'est pas sur les mêmes temporalités, et pourtant, beaucoup d'élus, on a vu l'exemple avec Stéphane, mais beaucoup d'élus de toutes couleurs sont mobilisés, impliqués pour le quotidien, beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Et Arkéa, moi,
surtout les élus locaux.
J'ai passé quelques années à Arkéa, donc je sais aussi l'attachement au territoire, hein, notamment en Bretagne, mais après sur d'autres sites, évidemment. Les territoires sont très créateurs de valeur. Il faut qu'on puisse les accompagner, et le logement ne doit pas être un outil bloquant, il doit être un outil aidant. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma-là. Il faut recréer les conditions de ce dispositif.
Juste pour préciser, les élus locaux qui sont aujourd'hui ceux qui sont capables de mener ces politiques de territoire, comme l'a très bien indiqué Stéphane Pfeiffer tout à l'heure.
Justement, on va rentrer dans le cœur du sujet, et notamment les chiffres du logement. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais les chiffres du logement sont catastrophiques. La Fédération des promoteurs immobiliers parle de la pire année des historiques, voire même on risque d'être sur une année en deçà de l'année Covid, où on avait eu quand même quasiment entre 4 et 5 mois d'arrêt de chantier. Si on résume un petit peu justement sur Bordeaux, quelle est la situation sur la métropole, notamment en besoin de logement et en termes de production? On l'a évoqué un peu tout à l'heure, parce qu'il y a besoin toute typologie de logement. Le logement intermédiaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui, est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il y en a assez qui sont construits sur Bordeaux? Le logement social et évidemment l'accession à la propriété.
Alors, vous parlez de crise déjà. C'est la pire crise depuis 1992. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient aux affaires. Moi, j'étais patron des activités immobilières d'Arkéa à l'époque, cher ami. Hein, je vous ai laissé un poste, là. Nous avions liquidé la Banque hypothécaire européenne à l'époque. Et à l'époque, il y avait du stock. Mais
j'y étais.
Vous y étiez. Et il y avait du stock à l'époque. Alors, du stock physique. Aujourd'hui, la chance, c'est qu'on n'a pas de stock physique.
Exact.
Voilà. C'est la seule différence. Mais c'est la plus grave crise depuis 1992. Et je vais vous citer un exemple. Chez Domo France, aujourd'hui, on a le taux dit de rotation, c'est-à-dire de sortie du parc, le plus faible depuis 35 ans.
Absolument. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Pour nous donner des comparaisons, c'est éloquent.
Le taux de rotation classique est autour de 8. En ce moment, ici, sur la métropole, il est à 5. Et dans le secteur rural, que ce soit la Dordogne ou le Lot-et-Garonne, on avait des chiffres autour de 12-13. On est aujourd'hui à 8-9. Donc on voit bien que toute la chaîne du logement est en panne. Alors si j'évoque l'agglomération bordelaise, on a eu une croissance, mais l'Aquitaine dans les mêmes termes, une croissance en un an des demandeurs de logements sociaux de 12%. Donc ça veut dire que on empile les demandes, et l'exemple type, c'est que même les quartiers les plus fragiles, les plus précaires, ceux où il fallait 5, 6, 7 propositions pour avoir une acceptation de demande, aujourd'hui nous avons la queue. Hein, je suis le plus gros acteur sur la rénovation urbaine des quartiers historiques ici, de la périphérie, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même dans ces quartiers-là, je n'ai aucun départ.
Mais c'est du désespoir de cause.
C'est catastrophique, et ça fait des mois et des mois que les promoteurs, les élus locaux, les acteurs du logement social interpellent l'État. Et que nini ? Vous savez ce qu'on me répond, on peut se le dire entre nous.
Mais oui, non, mais hein, justement, peut... Francis, vous qui avez cette expérience, j'ai l'âge d'avoir connu effectivement là. D'ailleurs, rappelez-vous, 92, c'est la naissance de la financiarisation de l'immobilier.
Absolument.
On s'est retrouvé, moi, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec des stocks d'immeubles, avec des promoteurs qui étaient défaillants, et on les a mis sur des véhicules qui ont été titrisés. Je parle pas des subprimes, hein. Mais alors, question.
Foncière de défaisance.
Absolument. Quelle est l'origine de cette crise? Non, mais soyons clairs. Alors c'est sûr que notre président de la République, on peut pas dire franchement que c'est un fan du logement. Ok, c'est clair, on l'a vu sur les 4 précédents gouvernements. Mais c'est quoi l'origine de cette crise? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, en 2024, on soit encore dans cette situation? Je vais quand même donner un chiffre qui est pas drôle du tout, hein. C'est la défaillance des promoteurs sur l'année qui vient de s'écouler. 123. 123 promoteurs ont jeté l'éponge, et certains qui ont été littéralement rincés. Alors je sais que c'est dur à entendre pour le public qui est autour de nous, qui est impliqué, mais vous savez très bien de quoi je parle. On est passé quand même de 100 à quasiment zéro, du jour au lendemain. Et heureusement qu'on a des partenaires comme Arkéa Banque qui ont joué le rôle aussi à peu 80 contracycliques d'aider ses clients, mais on peut pas faire non plus des miracles. Quelle est l'origine de cette cause et de cette crise, et comment vous appréhendez la possibilité d'un avenir, on va dire, un peu plus heureux?
Pour moi, je pense qu'il n'y a pas une cause unique. Il y a une multitude de facteurs sur ce sujet. Il y a eu d'abord des effets spéculatifs. Hein. On a vécu, on sait bien que nos métiers, le logement, l'immobilier, c'est cyclique. Et on a eu une montée spéculative très forte.
À spéculative, carrément.
Oui, oui, il y a eu sur certaines agglomérations, notamment ici à Bordeaux.
C'est bien de le dire. Non, mais voilà.
En 3 ans, on avait pris 35%.
Ah oui, quand même.
Bon, voilà, donc regardons les choses en face. Mmh. Donc, il y a eu un effet spéculatif, il y a eu un effet normatif, on a eu une tension sur les matériaux énorme. Hein. En 5 ans, le coût de construction a augmenté de 40%. C'est considérable.
D'où ça vient ?
Effet Covid sur les matériaux, on a eu une flambée,
guerre en Ukraine,
et on n'a pas eu un retour à meilleure fortune ou marginalement.
C'est quoi? C'est de la permacrise, quoi. C'est une crise en chasse une autre.
Oui, enfin non, ça serait bien. On a les strates qui se sont agrégées. Plus le normatif. Moi, j'appelle d'ailleurs très clairement une pause normative. Aujourd'hui, on est à RE 2020, c'est très bien, et on est tous d'accord pour aller vers une logique de décarbonation, et la trajectoire est indispensable. Mais à un moment donné, il faut acter les priorités. Et aujourd'hui, mes locataires me demandent pas du RE 2028 ou du RE 2035, ils me demandent des clés et un toit.
Oui, et essayer de payer son loyer. C'est sûr que
des clés et un toit.
L'impact sur la planète pour quelqu'un qui est à la rue, je peux vous dire que c'est un peu secondaire. Voilà.
Alors, je continue sur le sujet crise. Action Logement, notamment, a joué son rôle de contracyclique, notamment vis-à-vis des promoteurs, parce qu'on a bien vu que l'offre, il y a très peu d'offres, mais la demande n'était plus là quand on a eu cette énorme, en tout cas très rapide remontée des taux. Et les bailleurs sociaux, enfin je pense notamment au groupe Action Logement et CDC Habitat, ont vraiment joué pendant 2 ans un rôle contracyclique de racheter en bloc de façon quand même assez massive à des promoteurs des logements pour pouvoir avoir la pré-commercialisation et lancer
34 000 logements. 34 000. C'était
exactement
30 000 en objectif. Nadia Bouillet avec Bruno Arcadipan ont publié leurs chiffres, parce que j'ai eu le plaisir d'animer leur séminaire de gouvernance au mois de septembre. 34 000, c'est extraordinaire.
Donc, résultat. Ma question est la suivante, c'est que vous avez été soutenu un peu la filière pendant 2 ans. Quid de 2025 et 2026? Parce que je pense que voilà, vous avez aussi des sujets de priorité, d'allocation de financement. Est-ce que le groupe restera encore très présent auprès des promoteurs et de rachats en bloc les 2 prochaines années?
Alors, d'abord, la logique contracyclique que vous évoquez, historiquement, les bailleurs, pas simplement Action Logement, est un acteur contracyclique. Sauf que ce n'est pas possible dans la durée parce que le modèle économique du secteur du logement social est en train de s'effondrer. Et la hausse du livret A nous a mis un genou à terre et la RLS nous a mis le deuxième genou à terre. Donc voilà, ça c'est une donnée de base. Après, Action Logement a fait un pari de soutien des promoteurs parce que c'était un enjeu très important. Et si je pars de la région Aquitaine, qu'avons-nous fait ? Mon collègue de Clercienne est là. Le groupe a s'est positionné entre 2500 et 3000 logements en acquisition sur 2 années. Entre le logement locatif social et le logement intermédiaire. Alors que sur l'étagère, on a eu 11 500 logements en proposition. Voilà. Hein, c'était la deuxième région de France après l'Île-de-France.
Énorme.
Alors, la maison que je représente ici en a acheté 1 500. Moitié à peu près en LLI, moitié en logement locatif intermédiaire. Pourra-t-on continuer ? Évidemment non. Évidemment non, parce que nous n'avons plus de marge de manœuvre. Plus du tout. On a un autre problème. Pour que la chaîne du logement reparte, on peut pas simplement dire le Pinel est une aberration, il faut arrêter un dispositif, sans penser un nouveau dispositif, quel qu'il soit. Hein, il suffit pas de fermer la trappe et de se dire eh ben maintenant on verra après, parce que les demandeurs eux ils sont toujours devant la trappe et ils attendent une proposition. Alors le Pinel a eu toutes les perversités qu'on peut imaginer. Sûrement il y a eu beaucoup d'erreurs. Nous aussi nous faisons des erreurs. Mais en tout cas la correction c'est pas la suppression de tout dispositif. Résultat des courses, on met les promoteurs à terre. L'offre de logement social aujourd'hui ne part plus. Parce que les macro-lots, parce que je rentre dans la technique, mais les macro-lots sont souvent des opérations communes avec promoteurs. Et si la partie privée part pas, la partie publique ne peut pas partir et se réaliser. Donc c'est ça les gros enjeux que nous avons devant nous. Comment remettre la machine avec un gouvernement qui oublie, même si à la tribune il parle de pouvoir d'achat, il oublie que le premier acte du pouvoir d'achat, c'est le logement. Quand ça pèse 30 à 50% du revenu des ménages.
En 2022, c'est l'INSEE qui a publié, la charge contrainte du logement était de 18,1%. En 2024, elle est passée à 29%. Ça y est, c'est devenu la première charge contrainte des foyers devant l'alimentaire. Il faut quand même bien se reposer. Merci d'avoir donné ces informations. Il y a des Français aujourd'hui qui se posent la question, c'est loyer ou manger ? On en est là. Et ça, vous le vivez au quotidien, on est d'accord, Francis ?
Mais on le vit au quotidien dans notre parc. L'an dernier, on a attribué 3 500 logements dans l'année, 3 500 attributions de logements. 40% des ménages étaient sous le seuil de pauvreté.
40% ?
Des 3 500 entrants étaient sous le seuil de pauvreté, dont la moitié avait un CDI. Pourquoi un CDI ? Parce qu'on a souvent des familles monoparentales, c'est la majorité des publics que nous logeons, et souvent des temps partiels, et là souvent des femmes ou femmes seules, mesdames, et on a ces publics-là qui, s'ils ne trouvent pas un logement chez nous, sont dans la misère. Et c'est ça le sujet. D'ailleurs, vous avez vu comment évoluent nos métropoles avec une favélisation en périphérie.
Merci.
Qui est préoccupante.
Merci.
Dans toute l'Europe occidentale.
Merci de le dire. Merci de le dire. C'est important. Et on n'élude aucune question. On est d'accord, Aurélien, sur la question. Quelle solution vous entrevoyez pour fluidifier le parcours résidentiel et sortir de cette crise ? Je m'explique. Vous avez fait le constat, Francis, que effectivement, on a une politique du logement délétère. Assumons le fait qu'il y a eu des politiques publiques du logement qui ont été délétères. Sauf que dans son discours de politique générale, alors je viens d'avoir sous les yeux, je suis dans le fil conducteur du ministère du Logement sur la question de la réduction du loyer de solidarité. Et que la question se pose de savoir s'il n'y a pas de poursuite. Alors je vous le dis, c'est plié, vous le savez, la RLS va être maintenue. Et j'aimerais bien que vous disiez à ceux qui nous écoutent, pourquoi la RLS a été un frein bloquant, majeur, qui a quelque part brisé les capacités d'investissement des bailleurs sociaux, qui, je le rappelle quand même, ont quand même la mission de loger les Français. Et en quoi, finalement, le rétablissement ou la suppression de la RLS, ainsi que la pause normative, je rappelle que Michel Barnier a également parlé de ralentir l'assouplissement de cette inflation normative qui a pesé durement. Alors c'est sûr que c'est pas drôle quand on est promoteur, quand on est aujourd'hui et aussi que les rénovateurs, mais il faudra bien se poser la question, Francis, de savoir quels sont les relais de croissance. Est-ce qu'aujourd'hui le métier de promoteur, il est mort ? On est en droit légitime de se poser la question. Et y a-t-il aujourd'hui, lorsqu'on est promoteur immobilier dans ce pays, quand on a concouru à, je crois, les promoteurs fournissent 53% de l'offre des logements sociaux, il me semble.
La moitié des ventes en bloc.
Voilà. Donc ça veut dire que sans les promoteurs privés, ben, il y aurait tout simplement des dizaines de milliers de gens dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait pour justement la régénération urbaine, la rénovation urbaine? Est-ce qu'on a des possibilités de rebond professionnel, puisque ce bouleversement est-il très concrètement propice à un changement?
Bon, un mot sur la RLS, parce que oui, vous m'interpellez là-dessus, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est en réalité cette ponction de l'État pour compenser l'APL à la place de l'État, quoi. Bon, pour faire simple, c'est 1,5 milliard par an, et une entreprise comme Domo France, c'est 13 millions par an de ponction directe. Voilà, où on fait l'APL à la place de l'État. Mais je veux dire que quand le livret A était à 0,5, ça me posait pas de problème. Mais quand on cumule une hausse du livret A avec un surcoût pour une entreprise comme moi de 40 millions, plus 13 millions de RLS, ça veut dire qu'il faut que je perde 53 millions de marge de manœuvre en fonds propres pour produire. Je ne sais plus faire. Et pourtant, je vais produire 2000 logements par an. Mais combien de temps ça va durer? Donc, c'est ça la réalité du modèle. Donc, beaucoup de bailleurs dans ce pays ont mis le pied sur le frein et ont baissé leur production. D'ailleurs, en 2 ans, la baisse a été à peu près de 20%, la production de logements sociaux. Et ça va continuer. Sauf en région Aquitaine, les derniers chiffres sont plutôt satisfaisants. Mais je ne sais pas si Stéphane est parti, mais nous avons eu une aide de la métropole qui a été significative pendant 2 ans pour soutenir la production, et ça a été un élément très important pour nous. Sinon, il y a 1000 logements qui ne se seraient pas réalisés. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer le bébé aux collectivités locales qui en ont ou pas les moyens, mais la promotion privée, si elle ne repart pas, c'est le logement social qui sortira pas. Mais nous avons aussi besoin de mobiliser la chaîne du logement aussi sur le logement intermédiaire. Parce que des jeunes cadres, aujourd'hui, ne peuvent pas se loger. Ou quand on parle de mobilité ou de décarbonation, etc., on les envoie à 50 ou 80 kilomètres habiter. Donc ça veut dire qu'il y a pas de politique d'aménagement du territoire, il n'y a pas de stratégie. Et l'État stratège, il a disparu. On a besoin de repenser ces politiques avec une vision à moyen et long terme, parce que nos métiers sont à moyen et long terme. La décision d'aujourd'hui, il va falloir 4-5 ans pour qu'elle aboutisse. Donc c'est ça les enjeux qu'on a ensemble. Moi, je n'oppose jamais promotion, acteurs du privé et acteurs publics. On est dans le même process d'offre de logement qui doit construire un parcours résidentiel et souvent pour beaucoup de nos concitoyens un projet de vie. Alors il y a des produits, on va peut-être en parler, qu'on est en train d'imaginer, le BRS, etc. Et c'est important qu'on ait des solutions, mais il faut avoir une politique globale et de la vision, parce que nos métiers, c'est d'abord de la confiance. Et là, je parle au banquier, il le sait, tous ses clients lui parlent tous les jours de confiance.
On est tout à fait d'accord, on partage. Et puis d'ailleurs, je pense sur le logement intermédiaire, la solution miracle de faire revenir les investisseurs institutionnels, dont les assureurs, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Le rendement, il n'est pas là. Donc l'État a eu une très bonne idée, mais économiquement parlant, ça fonctionne pas. Donc en fait, on a tué pour le coup le Pinel, qui pouvait être du logement intermédiaire pour les particuliers, en tout cas investisseurs. On a tué.
Il aurait fallu le réguler.
Exactement.
Et c'est facile de tuer la bête avant de la réguler.
Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes sur le Pinel?
Non.
Bon, vous savez qu'il y a eu un rapport sur la Cour des comptes est-ce que dans le public, il y en a qui en ont entendu parler? Le rapport de la Cour des comptes sur l'efficacité du Pinel, vous en avez entendu parler? Eh bien, c'est quand même, ça a dû vous faire rire, parce que la Cour des comptes dit dans son rapport en synthèse que le dispositif Pinel a fluidifié et a servi d'amortisseur et de coussin social dans l'accession à la propriété, pour des petits investisseurs qui faisaient du complément de retraite notamment, mais surtout a pourvu un tiers de l'offre locative dans le logement neuf.
Oui, alors moi je vais pas défendre le Pinel, parce que il a participé aussi à certains effets spéculatifs sur le pont foncier. Oui. Il a créé des quartiers dans rue en devenir. Pourrais vous citer quelques quartiers ici sur l'agglomération.
Non, mais vous avez dit non, attendez, je reprends vos propos. Je veux bien. On entend l'accent, il y a pas de souci. Mais je reprends vos propos. Vous avez dit, le dispositif Pinel, on n'a pas trouvé le moyen d'avoir un substitut au Pinel.
Absolument.
Il y a le Dor Normandie dans l'ancien, bien évidemment. Le ministre, d'ailleurs, la ministre du Logement, Valérie Létard, qui quand même se rappelait qu'elle a piloté l'ANRU. Hein.
Donc absolument. Juste,
on
absolument.
A quand même quelqu'un de plutôt affûté qui dit qu'effectivement, on va étendre le PTZ à tout. On va étendre, comme si c'était une nouvelle, vous savez. C'est la nouvelle. Non, on revient à 2023 en
bien
fait,
sûr,
hein, en réalité.
Sûr.
Donc, ils sont extraordinaires les politiques. Ils nous font croire finalement des choses qui existaient déjà. Enfin, c'est moi. Mais entre ce dispositif-là, rien.
C'est ça le problème.
N'est venu finalement amortir le choc de l'arrêt brutal du Pinel.
Je dis que le Pinel a eu beaucoup d'effets pervers, mais il avait la vertu d'exister. Et aujourd'hui, avec rien, on arrête entièrement la chaîne du logement. On l'a mis à mal et on a besoin de retrouver une dynamique et où les bailleurs sociaux doivent être entièrement partie prenante du dispositif, mais il faut aussi que l'ensemble de l'écosystème se réinvente et pour ça on a besoin d'avoir des pouvoirs publics actifs et à l'écoute et ne pas considérer que la promotion privée c'est un gros mot dans ce pays.
Et d'ailleurs, la mort des promoteurs ne fait plaire personne. Je cite Pascal Boulanger, oui. Et c'est bien triste en soi puisque vous l'avez bien rappelé. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Voilà, ça anime un peu. Et je pense que dans le public, on buvait littéralement vos paroles. Merci Francis Stéphane. Je rappelle que vous êtes directeur général de Domo France. Applaudissements pour ce. Merci pour cette chaleur ambiante. Et effectivement, c'est sûr que c'est des sujets. Encore une fois, il faut aller au cœur des sujets et se dire les choses comme elles sont. On va avoir, les amis, bien évidemment, vous êtes toujours sur IMO, donc Parlons Territoire. On va rencontrer maintenant Rémi Erhardt, cofondateur de Aken System, un provocateur d'hybridation. Pas mal comme baseline. Je sais pas qui c'est qui fait le marketing chez Aken Ecosystem, mais on va en parler dans quelques instants. On se retrouve tout de suite.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Merci les amis, vous êtes toujours avec nous sur Parlons Territoire, dernière et quatrième étape de notre Tour de France. Voilà. Mais mon cher Aurélien, on revient en 2025.
Exactement.
Et on découvrira d'ailleurs les villes étapes. Merci à Rémi Erhardt d'être sur le plateau. Bonjour.
Merci de m'accueillir.
Bonjour. Vous êtes cofondateur de Aken Ecosystem.
Exactement.
Aken Ecosystem, je regardais sur votre site et je voyais provocateur d'hybridation. L'hybridation pour créer des croisements entre les savoirs, les métiers, les personnes et les générations afin de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est carrément une vision anthropologique de la ville que vous avez.
Exactement. Merci Sylvain de citer du coup la raison d'être de notre société. Aken Ecosystem, c'est une société à mission. Et notre activité principale, c'est de développer, de construire, de garder en patrimoine et d'exploiter ce qu'on appelle nous des écosystèmes apprenants. Donc de façon très concrète, en fait, on développe à l'échelle de bouts de quartier des lieux dans lesquels on va retrouver des locaux d'enseignement. On va retrouver tout un tas de services qui permettent de proposer aux étudiants qui viennent chez nous, une expérience étudiante augmentée, donc avec du service notamment, du logement, hein, on en a parlé, je pense qu'on va revenir sur le thème, mais pas que, on peut retrouver aussi des entreprises, des incubateurs, plein de choses qui font que en réunissant des acteurs différents et en organisant finalement les rencontres entre ces différents acteurs, on crée finalement des opportunités d'action et de projets dont on viendra ensuite mesurer l'impact au travers de tout un système qu'on a mis en place et qui nous permet de rendre compte à la collectivité qui nous a permis de développer ce type de projet.
Justement, en parlant des collectivités, vous avez réalisé une très très belle opération sur Bordeaux avec Campus Innov, hein, qui
oui.
fait partie du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous raconter un peu la genèse de ce projet, quelles sont les problématiques, hein. On a parlé longtemps et on a vraiment souhaité aujourd'hui vous mettre à ce tour de table pour parler du sujet de la formation et du logement étudiant, qui est quand même problématique, qui s'aggrave d'année en année dans notre pays et dans énormément de métropoles et de villes, hein, même de villes moyennes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, en tout cas cette opération bordelaise, et nous parler aussi un peu de cet écosystème, hein, sur Bordeaux de l'étudiant?
Oui, alors peut-être juste un mot pour décrire INOV, qui effectivement est mon partenaire principal aujourd'hui, qui nous accompagne sur la plupart de nos projets, qui est le leader en France aujourd'hui dans la formation des jeunes dans les métiers dits de la tech et du digital. Donc ça va vraiment de la cybersécurité, de l'informatique jusqu'aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est 12 000 étudiants dans 15 campus en France. Et effectivement, à Bordeaux, c'est un exemple très concret. On a livré donc un bâtiment d'environ 5 000 mètres carrés dans lequel l'école s'est installée il y a un petit peu plus d'un an et qui répond aux enjeux finalement d'une pénurie de locaux adaptés finalement, spécifiquement conçus pour être des locaux d'enseignement, hein, qui répondent à des normes très particulières. INOV, pour mémoire, qui existe depuis 2010, donc depuis 14 ans, exerçait ses activités sur 4 sites différents sur Bordeaux, parce que ça s'est développé. On a aujourd'hui plus de 1500 étudiants, et c'était quasiment impossible finalement de les regrouper en un même lieu. Donc aujourd'hui, une partie de notre activité, c'est de répondre partout en France à ces enjeux de pénurie de locaux pour proposer des solutions sur mesure. Pour les écoles, et c'est un enjeu vraiment très important, parce qu'on parlait tout à l'heure de la problématique des entreprises de loger leurs employés, mais en réalité elles ont aussi un autre problème, c'est de recruter des talents, en particulier dans ces métiers de la tech et du digital, qui soient formés et qui soient formés localement, qu'on puisse accueillir en alternance puis comme jeunes collaborateurs.
C'est des sujets, on l'a dit tout à l'heure, on va pas rappeler les chiffres, mais ils sont dramatiques. On a des étudiants qui cumulent plus d'aide à la voiture électrique qu'au logement étudiant. Donc on a résolu le problème du logement. On va tous vivre dans la voiture électrique. Voilà. C'est surréaliste, on marche sur la tête, et j'allais dire, c'est presque... Alors, je peux me permettre, puisque je suis journaliste, donc je peux dire à peu près ce que je veux. C'est même criminel, dans une certaine mesure, puisque c'est le sacrifice d'une génération. Je sais pas si vous vous rendez compte que, et là je m'adresse à tout le monde, et au public, mais aussi à vous, qu'il y a 12% des étudiants, vous le savez, qui ont renoncé à leurs études. Faute effectivement du logement. Quand on n'a pas la possibilité d'avoir des parents qui suppléent finalement à cela, c'est en ça d'ailleurs que votre écosystème finalement est intéressant. Donc je voudrais vraiment qu'on rentre dans le sujet. Vous le savez, parce que vous êtes aux premières loges, les étudiants aujourd'hui, parce que ce que vous avez fait, c'est absolument génial, hein, dans votre écosystème. Et je salue le fait que vous soyez devenu une entreprise à mission. Moi, je suis sûr que d'ici un an ou deux, vous serez Bicorp également, hein, pour être très clair là-dessus. Les étudiants ont d'énormes problèmes de logement. Comment, vous, d'un point de vue pragmatique, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu d'espoir, et comment vous avez, de manière ingénieuse, malgré les obstacles, et Dieu sait que vous en avez eu, vous arrivez à leur trouver des solutions extrêmement concrètes pour permettre aux étudiants de se loger. Je voudrais juste ajouter, vous avez parlé de l'alternance, qui est la troisième voie de l'éducation. Parce que l'alternance, outre le fait que ce sont les entreprises qui financent la scolarité, on perçoit un salaire, ça veut dire que dans les classes moyennes ou les populations modestes, c'est un formidable ascenseur social. Je donne juste un chiffre, ce chiffre il est dramatique, 4% des étudiants sur des niveaux master à l'université sont issus des classes les plus modestes. 4%. Donc on voit bien que dans la gestion de notre société moderne, le fait justement d'avoir interrompu l'évolution de cet ascenseur social qui permettait à des étudiants de s'extraire de sa condition, et on en a tous quelque part bénéficié, moi le premier, justement ça doit être assez difficile pour vous également de faire face à cette réalité. Comment vous, chez Aken Écosystème, vous y prenez ?
Bah, c'est une vraie réalité, effectivement, et il suffit de venir, par exemple, sur une journée porte ouverte dans un campus INOV pour se rendre compte que les parents viennent, certes, pour essayer de comprendre c'est quoi les études que les enfants ont envie de faire en cybersécurité ou en marketing digital, mais la question qui vient immédiatement après des parents, c'est « mais alors du coup, comment ça va se passer ?» En particulier pour les parents des plus jeunes, ceux qui viennent post-bac, qui ont 17 ans, qui arrivent, qui habitent à Bergerac, à une heure et demie de Bordeaux, par exemple. Donc là, la préoccupation de savoir comment ça va se passer, où est-ce qu'ils vont être logés, elle est cruciale. On a livré cet été un campus à Aix-en-Provence, un nouveau site pour INOV. On a construit une résidence étudiante qui est en face. Elle était remplie à 100% 3 mois avant la livraison. Elle est occupée à 70% par les étudiants d'INOV qui sont en face. Et l'exploitant de la résidence m'a informé qu'il avait 230 dossiers en liste d'attente, donc c'est-à-dire la taille de la résidence qu'on vient de livrer. Donc comme l'évoquait Francis tout à l'heure, on est sur des temps de projet qui sont hyper longs. Nous, on met 5 ans pour...
C'est désespérant de voir ça.
C'est un vrai sujet. Donc, ouais.
Et vous arrivez à avoir des loyers quand même qui restent abordables dans le cadre de vos campus?
Alors ça, c'est le deuxième sujet, parce que Sylvain l'a dit, aujourd'hui, tout le monde, tous les étudiants ne peuvent pas se payer un logement étudiant à 800 euros, voire à plus de 1000 euros aujourd'hui en région parisienne, hein, c'est le prix moyen. Donc nous notre enjeu, c'est concrètement proposer des solutions en fait pour les étudiants, puisqu'aujourd'hui on voit bien que et vous avez donné les statistiques, 12% on est passé, ça c'était l'année dernière, 18% 17, cette année, ouais, pratiquement, de jeunes qui renoncent à leur projet d'études faute de pouvoir se loger. Donc c'est vraiment la clé. Donc nous on essaie de travailler ça de différentes manières. La première, c'est que plutôt que d'avoir un seul campus à Paris avec 10 000 étudiants, en fait on va directement au contact des territoires dans les régions. Donc là on développe des projets en ce moment à Amiens, à Orléans, à Rennes, dans tous les territoires finalement, partout en France, pour aller au contact et pour permettre à des jeunes finalement à une heure de distance ou une heure et demie de distance de leur métropole de trouver une solution de formation. Et on propose maintenant de façon systématique effectivement des solutions d'hébergement. Et depuis 2 ans en fait, depuis qu'on a conçu Aken Ecosystem, maintenant en fait on se positionne pour être nous-mêmes les exploitants de ces résidences, et surtout pour concevoir des résidences d'un type nouveau, c'est-à-dire que plutôt que d'empiler les chambres de 18 mètres carrés, nous on essaie de réfléchir finalement à comment est-ce qu'on peut avoir des prix abordables pour des jeunes, avec un peu de créativité, un peu d'innovation. En général, on arrive à être 20-25% moins cher que le prix de la chambre étudiante. Parce qu'on propose...
Si on est, par exemple, sur une ville moyenne, oui. Bon, Paris, vous l'avez dit, c'est carrément inabordable,
ouais.
On est à combien sur les moyens?
À Amiens, par exemple, très concrètement, où on a aujourd'hui des chambres étudiantes qui sont entre 500 et 530 euros, nous, on va proposer une offre qui va être entre 400 et 430 euros selon...
Et ils bénéficient des APL,
bien
évidemment.
Bien sûr.
Et donc, ça permet, effectivement, grâce au contrat d'alternance,
ouais,
qui, je le rappelle, rémunère en hauteur de 60 à 80% ouais, du SMIG net de charge grâce au contrat d'apprentissage,
ouais,
d'être quasi autonome.
Exactement.
Et de ne pas avoir forcément la pression sur des parents d'élèves qui n'ont plus les moyens de financer les études de leurs enfants.
Exactement.
Et c'est ça la perte du pouvoir d'achat.
Exactement.
Et ça, c'est les générations de demain.
Exactement. Donc, et ça, c'est rendu possible en particulier parce que nous, en fait, on reste propriétaire en fait des infrastructures que nous développons.
Vous construisez, vous aménagez,
on dépose les permis de construire, on construit donc.
Et vous exploitez.
Et effectivement, on garde la propriété patrimoniale de nos infrastructures qu'on exploite. Et de ce fait, ça permet de faire des produits un peu sur mesure. Donc, on est revenu sur des choses simples. Vous voyez, aujourd'hui, plutôt que de faire, encore une fois, des chambres de 18 mètres carrés, on propose des colocations pour 2-3 étudiants qui vont partager une salle de bain. Mais à un moment donné, c'est ça qui leur permet finalement d'accéder à un logement. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mes études il y a 25 ans, ça marche.
En fait, vous avez créé les premiers kibboutz urbains, quoi. Bravo.
Peut-être, oui.
C'est très bien. Aurélien.
Alors, votre entreprise, enfin le groupe, est extrêmement investi sur l'ESG.
Oui.
Je crois qu'on partage ça, hein, puisque le oui, Crédit Mutuel Arca est également entreprise à mission.
Oui.
J'aimerais qu'on parle notamment de l'impact carbone et de ce que vous avez développé, la démarche ESG au sein de l'entreprise et au sein notamment des campus.
Oui. Nous, la démarche, elle est venue presque en amont, au départ, par rapport à l'idée de devenir une société à mission. Ce qu'on voulait, c'était mesurer l'impact en fait de la réalisation de nos écosystèmes apprenants. Pourquoi ? Parce que finalement, tout démarre dans un dialogue avec le territoire et donc la collectivité. Et moi, aujourd'hui, quand je vais voir un élu, quand je vais voir le président d'une métropole et que je discute avec lui et que je lui expose finalement l'intérêt de développer sur son territoire un écosystème pour accueillir non seulement une école leader dans le domaine de la tech et du digital, mais aussi d'autres écoles, une solution concrète, un centre d'animation finalement, hein, de son quartier. La meilleure façon finalement de concevoir les choses avec eux, c'est pour nous de rester propriétaires et de s'engager durablement comme étant des interlocuteurs pour eux, mais aussi de mesurer l'impact de ce qu'on va faire et de rendre compte. Donc ça, c'est très important. Donc on a travaillé avec un cabinet spécialisé pour élaborer un tableau de bord qui comprend 62 indicateurs. Donc vous avez compris que notre raison d'être tourne autour de l'hybridation. Donc on a trois grands thèmes d'hybridation. L'hybridation des territoires, c'est notre capacité à concevoir des projets sur mesure. On fait jamais la même chose, en fait. Tous les territoires ont leurs points forts, leurs points moins forts. Donc on essaie de venir et de s'imbriquer harmonieusement par rapport à ce qui existe, hein, avec le tissu économique, le tissu associatif. On a un deuxième thème d'hybridation qui est bien sûr l'hybridation des savoirs. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème apprenant. On fait des campus dans lesquels quasi systématiquement Innov est présent, mais on accueille aussi beaucoup d'autres écoles.
Vous utilisez par exemple du machine learning, vous faites il y a du e-learning, il y a des clusters.
Alors, chez Innov, oui, parce que Innov, encore une fois, c'est de la tech et du digital, donc c'est de la haute technologie, mais on a aussi dans nos plus grands projets, on va avoir une manufacture de proximité et on va avoir des formations bac-2 en menuiserie, par exemple.
Les écoles font partie de votre groupe.
Alors, Innov fait partie de notre groupe.
D'accord. Mais seule. D'autres écoles, une école qui aimerait une école indépendante, associative, qui aimerait bénéficier des infrastructures de vos campus, dont je rappelle que le système est extrêmement ingénieux, et c'est possible. Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est tout à fait possible. Et on s'adresse non seulement aux écoles qui aujourd'hui s'engagent sur des baux commerciaux longs, 9 ans, 12 ans, mais on adresse aussi avec une autre structure que j'ai créée.
Utiliser les espaces,
oui,
occuper les salles.
Alors exactement.
Avoir les rotations avec l'alternance, par exemple, c'est très ingénieux.
Alors exactement. On fait plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on est capable de louer des salles de classe à la journée, au trimestre, ou sur des engagements de 12 mois et plus. Donc ça, c'est une activité de coworking spécialisé, hein, finalement, pour les organismes de formation. Il y en a 86 000 en France. Qui aujourd'hui sont un peu les précaires de la formation qu'on va retrouver dans des salles de réunion d'hôtel ou dans des pieds d'immeubles commerciaux qui sont pas du tout adaptés. Donc pour ces gens-là, en fait, on offre des solutions. Et puis effectivement, la mutualisation, ça c'est le dernier pilier finalement de notre raison d'être, c'est l'hybridation des espaces. On parle de chronotopie, donc là c'est vraiment comment fait-on pour augmenter l'intensité d'usage de certains espaces. Vous voyez, chez Innov par exemple, un amphithéâtre, c'est utilisé 15% du temps. Parce que les cours sont dans des salles de classe, donc les amphithéâtres sont dédiés plutôt pour des événements.
Bien sûr.
C'est vide 85% du
temps.
Et ça
optimise.
C'est vide le soir. Bah, ce qu'on fait nous, c'est que bah, finalement, on les met pas dans les locaux privatifs de l'école, les amphithéâtres. On les met dans une zone centrale, une zone tiers-lieu, qui permet du coup de partager ces espaces et d'autres, bien sûr, avec les autres utilisateurs de l'écosystème. Donc les entreprises, les autres acteurs de la formation. Mais du coup, ça fait aussi une très belle salle de cinéma, vous imaginez bien, pour la partie hébergement de nos projets.
Aurélien ?
Merci. Alors pour conclure, merci pour toutes ces informations et puis pour le concept développé. Je voulais qu'on conclue sur le sujet du moment. On est quand même dans une crise quand même assez grave. Je sais, Rémi, vous êtes un professionnel quand même de l'immobilier reconnu depuis de nombreuses années. Comment on sort de cette situation et comment voyez-vous le promoteur de demain?
Et est-ce que vous-même avez été impacté par le fait que, effectivement, alors vous avez un modèle singulier, hein, dans l'expression, mais aujourd'hui les promoteurs sont confrontés à une crise de la survie, hein, de leur métier, de leur modèle économique. Comment vous le concevez?
Alors aujourd'hui, moi, je me décris plus comme un promoteur finalement, et quelque part, donc je répondrai pas pour les promoteurs, mais moi je pense que
Alors, vous décrivez comment?
Moi je suis un opérateur investisseur, c'est-à-dire que d'abord et avant tout, encore une fois, quand je viens voir une collectivité, je lui explique un projet dans le que je me propose d'exploiter derrière. Je pense que le véritable enjeu, il est là, parce que oui, bien sûr, moi j'ai conçu ce projet. C'était un projet entrepreneurial que j'ai démarré il y a 2 ans. Donc c'est une réflexion
c'est
qui.
C'est vous le patron de c'est vous qui avez créé.
Oui, absolument. Je me suis associé avec le président fondateur du groupe Innov, donc qui lui, en tant que professionnel de l'enseignement, avait cette difficulté, qui est Lionel Desage.
Qui est un ancien judoka.
Qui est un ancien judoka, absolument. Qui lui était confronté à cette difficulté partout en France. À chaque fois qu'on veut trouver des locaux d'enseignement, en fait, on vous propose des locaux de bureaux vides dans lesquels on vous propose de faire des travaux. Et moi, je pense que l'enjeu, en fait, il est un peu là. C'est que pendant très longtemps, on a conçu des opérations, et je dis « on », moi le premier dans ma vie d'avant, on a conçu des opérations en réfléchissant évidemment aux utilisateurs, mais peut-être pas suffisamment. En tout cas, aujourd'hui, c'est devenu essentiel d'être focus sur les utilisateurs finaux. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, on est opérateur investisseur, c'est qu'encore une fois, on conçoit des infrastructures qu'on va exploiter derrière.
Et parce que vous exploitez de deux façons. Vous exploitez les locaux, Vous faites du property, enfin vous faites de la gestion technique.
Oui.
D'ailleurs, certains de vos campus sont équipés d'une gestion technique du bâtiment.
Oui.
Vous êtes très en avance là-dessus, mais en même temps, vous êtes propriétaire des écoles.
Oui.
Donc vous êtes vraiment sur toute la boucle.
Et l'évolution, si vous me permettez.
Ça vous dérange? Est-ce que c'est une question importante pour l'éducation? L'éducation qui finalement se privatise et devient maintenant des enjeux financiers, puisque je rappelle que l'économie du savoir dans le monde, c'est 3000 milliards de dollars environ. Hein. Mm. Donc on voit que c'est une branche d'activité très prisée des fonds. Est-ce que vous arrivez à maintenir, justement, parce que vous êtes devenu également société à mission, cette verticale qui fait qu'en fait vous travaillez sur la cohésion sociale?
Oui, tout à fait, puisque encore une fois, l'enjeu pour nous, c'est dans l'hybridation des savoirs, c'est de faire travailler ensemble un bac plus 5 en informatique avec un bac moins 2 en menuiserie. Donc on crée du lien, en fait.
On trouve les deux,
on crée du lien, et quand on organise bien les choses, en fait, on peut les amener à se rencontrer et à concevoir des projets ensemble. Mais pas que, aujourd'hui, nos écosystèmes sont des quartiers qui sont ouverts au public, en fait. Donc nous, on accueille les habitants du quartier pour venir. Innov, par exemple, est très engagé sur le thème de l'inclusion numérique, qui est un sujet majeur aujourd'hui dans le développement. Même toute l'administration aujourd'hui est en train de se dématérialiser. Il y a sans doute des sources, d'ailleurs, de productivité à chercher. On a vu Monsieur Barnier qui est sur cette dynamique. Donc le sujet de l'inclusion numérique, il est essentiel. Donc aujourd'hui, on accueille par exemple les personnes âgées pour apprendre à se servir d'un ordinateur ou d'internet.
Aken, ça vient de quoi? Aken, A-K-E-N.
Aken, l'inspiration d'Aken, c'est un artiste américain qui un jour s'est réveillé en voulant faire en vrai l'arbre du mythe biblique du jardin d'Éden, donc l'arbre aux 40 fruits. Et en fait, ce monsieur a passé une dizaine d'années de sa vie sur la base d'un prunier à greffer de façon naturelle toute une variété de fruits, et il a réussi à faire un arbre absolument magnifique.
Okay, donc vous savez ce que ça veut dire, Aken, en hébreu ancien?
Alors non,
ça veut dire ouverture sur le jardin d'Éden.
Eh ben voilà. Donc,
voilà,
on y est.
Aken. J'étais très surpris parce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des hébraïsants dans la salle? Je me dis, tiens, c'est intéressant, mais finalement, vous l'avez dit, puisque effectivement, il est dans l'arbre de vie. C'est extrêmement intéressant. Applaudissements pour Reniera. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Aken Ecosystem, qu'on retrouve d'ailleurs sur Internet, aken-ecosystem.com, tout simplement. Il est l'heure de conclure. Vous avez la parole, Aurélien. Quelques mots de conclusion.
Oui, exactement. Voilà. Merci en tout cas à Stéphane, à Francis, à Rémi pour vos interventions. J'ai trouvé que on a eu énormément de témoignages. J'ai aimé le sujet du discours de vérité qu'on a pu avoir tous ensemble aujourd'hui. Merci également à vous tous d'avoir été présents à nos côtés. Et puis je vous propose, alors on clôture, hein, c'est la dernière émission de l'année.
Absolument.
On va repartir l'année prochaine pour trois nouvelles émissions, dont notre speed dating habituel, mais on conclut toujours par un petit moment de convivialité pour que on puisse échanger.
On va échanger le verre de l'amitié. Merci Aurélien. Effectivement, quelques mots de remerciement. Merci à notre super Nelly Briand d'avoir organisé l'événement. Merci à Baptiste Plouchard, notre réalisateur extraordinaire. Merci à notre viking préféré, Alexandre Burkhardt, directeur artistique et metteur en scène de l'opération. Merci aux équipes de l'hôtel Fenwick de nous avoir accueillis. Merci également à la collectivité locale d'avoir pris le temps de venir nous voir sur Parlons Territoire. Merci à vous, Rémi Erhard. Vous avez vraiment la passion chevillée au corps, comme quoi, finalement, rien ne saurait résister aux accents de la passion. Merci à Francis Stéphane, avec cette verve, etc. Là, c'est le client rêvé pour la télé et la radio. Merci également à Stéphane Pfeiffer de la collectivité locale d'être venu sur ces trucs. J'aimerais dire une dernière chose. Vous savez, les promoteurs sont très exposés, vous le savez. Hein. Ils ont été très très bousculés. Je voudrais une petite citation, juste pour conclure, de façon holistique, une petite citation de Victor Hugo. Ça vous dit ? Victor Hugo, qui disait la chose suivante : « Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Voilà. Voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt sur d'autres aventures avec Parlons Territoire.
Parti. partez à la découverte des territoires et de ceux qui les dynamisent avec Parlons Territoire, une émission d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelle sur Radio Immo.